When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Nous allons parler cette semaine de la sécurité sociale. Alors pourquoi évoquer ce thème dans une émission consacrée à la géopolitique? Parce que l'épidémie de coronavirus nous a démontré que la santé était un élément important. C'est évidemment un facteur de puissance que de pouvoir soigner sa population et pour une population d'être dans un état qui soit correctement soigné. On a vu également que les États avaient réagi de différentes manières à cette épidémie, avec des systèmes de santé très différents, certains complètement étatisés, d'autres davantage libéralisés et avec parfois des solutions mixtes dans de nombreux pays développés. On a vu notamment l'exemple de l'Allemagne, de la France ou de l'Italie qui ont des systèmes de santé qui sont différents. Parler de la sécurité sociale est donc un élément important pour comprendre ce pilier de la puissance française. On dit souvent que nous avons le système social que le monde entier nous envie. Pourtant, au cours de cette crise du coronavirus, on a pu voir que la France n'était pas la mieux lotie et que certains pays ont eu beaucoup moins de morts. Alors certes, il y a eu des méthodes politiques différentes, mais le système de santé a lui aussi pu montrer ici ou là quelques faillites. C'est donc de cela que nous allons parler cette semaine. Et pour traiter ce sujet, je reçois Patrick de Casanov. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin généraliste. Vous êtes actuellement coordinateur pour des EHPAD dans la région du sud-ouest de la France. Vous avez été maire de Hongres dans les Landes entre 1995 et 2001. Et vous êtes actuellement le président du cercle Frédéric Bastiat. Et donc, de par votre métier et de par aussi vos intérêts, vous êtes beaucoup intéressé au système français de sécurité sociale. Avant de comprendre comment il fonctionne aujourd'hui, c'est intéressant également de voir son histoire. Comment est-ce que la Sécu est née en France? À quel moment elle a été fondée et quelles en sont ses origines?
Oui, bonjour Jean-Baptiste Noé, merci de me faire intervenir, de me laisser intervenir lors de votre émission. Au point de vue historique, la sécurité sociale que nous connaissons a été créée à partir des ordonnances de 1945, quand les gaullistes et les communistes qui formaient le gouvernement de l'époque ont décidé d'imposer leur marque sur le pays. Alors cette date de naissance est importante parce que c'est à partir de là que le système de santé français est un système collectivisé. L'influence des gaullistes et des communistes, c'est importante parce que ce sont deux modes de pensée qui sont des modes de pensée étatistes. À partir de la libération, comme il y avait pas mal de choses à reconstruire en France, plusieurs options étaient possibles ou ouvertes. Il pouvait y avoir une option, on va dire, libérale pour reprendre des termes un peu modernes, et une option très étatiste. Et en fait, les gaullistes et les communistes ont choisi l'option étatiste, et cette option a été valable pour la sécurité sociale comme pour beaucoup de secteurs de notre pays. Et on peut dire que c'est ce choix qui a mis notre pays sur la voie du socialisme. Le système de sécurité sociale n'échappant pas, bien entendu, à cette classification. Alors c'est important, je pense, pour les communistes socialistes de faire ça. Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc les ordonnances du 4 octobre 1945, mais qui reprennent et approfondissent des textes antérieurs, notamment qui datent de 1940, avec Pierre Laroque et Alexandre Parodi.
Oui, c'est vrai que l'histoire de la sécurité sociale, telle que nous la connaissons, est un petit peu antérieure puisqu'il y a une reprise de ce qui se faisait. Mais l'essentiel, enfin, la décision et l'essentiel viennent de l'ordonnance 45. Elles ont surtout une inspiration, je pense, britannique avec, anglaise plutôt, avec Beveridge. Beveridge, qui a été le concepteur du National Health Service britannique et qui a fait un système de protection sociale extrêmement centralisé, puisque dans son esprit, c'est un petit peu aussi l'esprit de la sécurité sociale, la protection sociale devait fournir une protection contre tous les accidents de la vie, que ce soit la maladie, le chômage, la vieillesse. Et c'est sur ce thème-là, ce principe-là que sont bâtis les. Qui a été bâtie la sécurité sociale française. Je pense que Beveridge a eu une grande influence là-dessus. Peut-être que le fait que les gaullistes aient été réfugiés à Londres, à proximité, ils ont imprégné par ce mode de pensée, n'a pas été étranger à la manière dont ils ont appréhendé la sécurité sociale en France à la Libération.
Et comment fonctionnait le système de santé auparavant, avant que soit mise en place la Sécu? Est-ce qu'il y avait des systèmes de protection? Est-ce qu'on avait des mutuelles? Ou est-ce que les gens étaient laissés libres
Des gens.
et...
Disons, c'était assez varié parce que il y avait plusieurs possibilités. Alors, on croit souvent que les assurances santé, on va dire, les assurances santé n'existaient pas. En fait, ce n'est pas vrai. Si on prend par exemple les accidents de travail, l'assurance accident de travail a été faite par un Français, par un assureur privé, qui s'appelait Marestin au 19e siècle. Ensuite, au début du XXe siècle, les assurances santé privées existaient déjà et une partie de la population était couverte. Quand les personnes n'avaient pas d'assurance santé, il y avait plusieurs solidarités qui entraient en jeu. Il y avait, bon, la plus, comment ça s'appelle, évidente, c'était les solidarités familiales, la famille où on trouvait une assistance en cas de difficulté. Puis il y avait les solidarités, ce que Frédéric Bastiat appelle les sociétés mutuelles, c'est-à-dire des personnes qui se regroupent, souvent au sein d'un village, pour assurer et prodiguer des secours aux personnes en difficulté. Et Frédéric Bastiat insiste beaucoup justement sur ces sociétés de secours mutuels qui avaient une grande efficacité. Alors l'efficacité, bien entendu, doit être relativisée en fonction des moyens de l'époque. Mais elles existaient et elles étaient pertinentes. Et puis, il y avait ce qu'on appelait aussi le paternalisme, c'est-à-dire que le paternalisme, les socialistes n'aiment pas trop ce vocabulaire, pourtant, à l'époque, le paternalisme avait une importance, parce que les patrons veillaient à la bonne santé, au bon logement, là aussi dans la mesure des moyens de l'époque, de leurs ouvriers. Et puis, il y avait évidemment les sociétés caritatives qui existaient déjà. C'était les organisations de bienfaisance comme ce que nous avons aujourd'hui dans le Secours populaire ou le Secours catholique ou le Resto du Cœur. Ça, ce sont des anciennes dénominations modernes, mais depuis l'aube de l'humanité, il y a toujours eu des sociétés de secours. Alors en France, c'était souvent l'Église qui s'occupait du secours aux pauvres démunis, les hôpitaux, l'assistance était souvent une assistance des Églises.
Donc, nous ne sommes pas passés de l'ombre à la lumière en 1945. On voit qu'effectivement, il y a déjà tout un système d'aide, de soins qui était possible pour les populations. Si on se fixe aux ordonnances de 1945, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça s'est fait en deux temps, c'est-à-dire qu'on a une création dans un premier temps, et l'étatisation et le caractère obligatoire vient ensuite, n'est pas présent dans les premières ordonnances.
Oui, mais les ordonnances sont très très proches chronologiquement. Donc, je pense que la volonté délibérée d'étatisation était manifeste et très présente dans les esprits de ces concepteurs dès le départ. Ensuite, une fois que la machine de l'étatisation était lancée, elle ne pouvait que continuer. Il y a une raison, il y a deux, à mon avis, il y a deux raisons pour ça. D'abord, Quand en 45 la France a été libérée, elle s'est retrouvée dans un état assez de démolition et de destruction assez importante, donc il fallait reconstruire. Mais pour les gaullistes et communistes, comme il y avait quand même certaines incertitudes, on va dire, politiques, on choisit de contrôler le pays, et en particulier le système de santé. Parce que quand on contrôle le système de santé, on contrôle les gens. C'est de manière beaucoup plus efficace que beaucoup d'autres manières. Ouais, ça se voit encore aujourd'hui. Par exemple, il y a beaucoup de mouvements, on va dire, activistes, comme le Hamas, par exemple, qui prennent très très vite le contrôle de l'aide aux personnes démunies pour pouvoir ensuite asseoir leur autorité. Donc ça, c'est une règle assez prégnante que pour asseoir son autorité sur une population, il faut contrôler son système de santé. Ça, c'est une des premières choses. Après, la volonté s'est faite parce que l'étatisation s'est poursuivie parce que très très vite, les difficultés sont apparues. Donc à partir du moment où les difficultés apparaissent vite, dans le raisonnement de ces personnes-là, ça veut dire que l'étatisation n'est pas suffisante. Il y a quelque chose qui échappe au contrôle de l'État, et à partir du moment où ça échappe au contrôle de l'État, c'est la cause des difficultés. Alors qu'en pratique, c'est l'inverse. Quand l'État se mêle quelque chose, on a des difficultés. Quand l'État ne se mêle plus de quelque chose, ça va mieux.
Alors, on parle beaucoup du trou de la sécurité sociale. C'est quelque chose qui est assez ancien, dès les premières années, en fait, ce système est déficitaire.
Oui, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que très, très vite, les difficultés sont apparues puisque le Gazier, qui était ministre de Pinay, a dû prendre des mesures parce que les premières mesures d'économie au niveau de la sécurité sociale, c'était dans les années 50, je n'ai plus la date exacte en tête. Et Pinay avait très, très vite attiré l'attention des gouvernements sur le fait que les dépenses de santé augmentaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que les recettes. Donc les difficultés sont apparues très très rapidement. Elles ont été créées en 1945 et dans les années 50, il y a déjà des difficultés. Ce qui veut dire que la sécurité sociale, quand on l'examine, a été conçue et est structurellement inefficace, on va
Déficitaire.
dire, au point de déficit. Elle ne rend pas le service attendu d'elle pour un prix, on va dire, compétitif, puisqu'elle est structurellement déficitaire depuis des années, des dizaines d'années.
Donc, on constate dès l'origine, dès les années 1950, une augmentation des dépenses et
Oui.
en même temps une augmentation des coûts également.
Et disons que la demande de santé était importante, parce qu'il y avait les populations, pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait des progrès techniques qui permettaient davantage de choses au point de vue thérapeutique. Et puis, les populations souhaitaient accéder à un niveau de santé important. Mais ce qui est à prendre en considération, c'est qu'à partir du moment où les gens ont l'impression de ne plus payer parce que c'est la sécurité sociale paye pas à leur place, ça ne peut marcher parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment un frein à la dépense. Et ça sort régulièrement des études en disant que la personne qui bénéficie, la personne qui décide, une troisième personne. Celle qui décide en général, c'est le gouvernement quand il prévoit les lois de finances, l'ONDAM actuellement avec l'objectif d'augmentation des dépenses d'assurance maladie, ce qui est remboursé, ce qui n'est pas remboursé, ça c'est le gouvernement qui décide ce qu'il fait, les crédits aux hôpitaux, les crédits pour la médecine de ville, etc., etc. Ensuite, celui qui paie, ben, c'est la sécurité sociale en général, plus les mutuelles, un peu avec le reste à charge et les Français, mais celui qui consomme, c'est le Français. Et le Français ou les personnes qui bénéficient de l'AME, les étrangers, bénéficient de l'aide médicale gratuite. Le problème qu'il y a, c'est que les individus ne se rendent pas compte que c'est leur argent, que les dépenses ont été prépayées en fait. Il n'y a rien de gratuit là-dedans. Mais ça entraîne cette discordance entre payeurs, consommateurs et ordonnateurs, est une grande faiblesse de leur système.
Alors, ça a deux conséquences géopolitiques, une conséquence intérieure et une conséquence extérieure. Sur les conséquences extérieures, ça veut dire que les dépenses augmentant, les prélèvements sociaux augmentent et donc ça crée un problème de concurrence, par exemple pour des entreprises qui ont le choix de se mettre à Paris, à Londres ou à Genève. Forcément, le coût social, le coût de santé va jouer dans des salaires qui sont plus onéreux et donc dans le choix éventuellement de se positionner dans une ville ou dans une autre.
Bien sûr, oui. La France n'est pas compétitive au point de vue charge sociale des entreprises, ni même au point de vue des impôts, parce qu'en France, une partie des prélèvements sociaux sont représentés par des impôts ou par des prélèvements au niveau des entreprises ou ce qu'on appelle les charges patronales ou les charges salariales. Mais en fait, charges patronales ou charges salariales, c'est un leurre, hein. C'est toujours l'individu, la personne qui paie. Et les charges patronales sont en réalité payées par l'individu. Cela dit, la charge financière pour les entreprises est très importante. Elle s'ajoute à d'autres charges financières qui sont les impôts de production ou autres. Hein. Ce qui fait que les entreprises en France ne sont pas à la fête. Quand on entend, une petite parenthèse, puisque on a parlé de la délocalisation de la production française, de l'industrie française pendant la crise du coronavirus. L'industrie française, je pense qu'elle ne s'est pas délocalisée par hasard. Elle s'est délocalisée parce que l'État a tout fait pour qu'elle parte. Il lui a donné des conditions tellement difficiles et transformé la vie d'entreprise en enfer qu'elles avaient intérêt, si elles voulaient survivre, à aller travailler ou s'installer ailleurs dans des cieux plus cléments. Donc, si l'État cohérent avec lui-même, il faudrait peut-être qu'il diminue les charges des entreprises ou les impôts, et les impôts des particuliers d'ailleurs. Il veut que les entreprises aient une chance de revenir sur notre pays. Ça, c'est lié.
Alors, on évoque effectivement ces conséquences extérieures, et puis il y a une conséquence intérieure qui est celle du manque de médecins. Donc ça a des répercussions en termes d'aménagement du territoire. Vous êtes vous-même médecin généraliste, vous avez été maire d'Ondres, environ 5 000 habitants dans les Landes. Est-ce que chez vous, il y a ce problème de manque de médecins et de déserts médicaux?
Alors, en nombre de médecins, non, parce que nous avons la chance d'être dans le sud-ouest, et le sud-ouest est une région qui attire, où j'ai bon vivre, et qui attire beaucoup de professionnels, dont les médecins. Ce qui fait que sur notre secteur, il n'y a pas vraiment de manque de médecins en nombre. Après, l'évolution de la pratique médicale a varié, c'est-à-dire que les plages d'ouverture des cabinets médicaux sont moins importantes et il y a un service de permanence sur mon secteur, pas partout, hein, sur mon secteur avec SOS Médecins ou des médecins de garde qui se sont créés. Mais on ne peut pas dire vraiment qu'il y ait une pénurie de soins ou un désert médical dans le sud-ouest.
Et de manière générale pour la France, quelle est la cause de ces déserts médicaux et du fait qu'il y a un manque de médecins, alors des médecins généralistes, mais également des spécialistes. D'ailleurs, ça touche aussi des grandes villes, parce qu'on pense souvent aux déserts médicaux dans les campagnes, mais en région parisienne, pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologiste ou chez un dentiste, il faut parfois plusieurs mois. Donc Paris et l'Île-de-France sont aussi concernés par un désert médicaux.
Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est une vaste question. Parce que, c'est une vaste question. Parce que il y a deux choses. Il y a en France des régions où il y a extrêmement peu de population, qui se sont désertifiées pour X raisons. Et la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut médicaliser ces déserts ou est-ce qu'on veut lutter contre la désertification médicale? Il y a des endroits, moi je me souviens très bien, j'ai connu un médecin qui, au début où il s'est installé, c'était dans une autour, à quelques distances de Carcassonne. Au début, quand il s'est installé, il voyait une vingtaine de personnes par jour et que c'était des personnes variées. Il y avait des personnes âgées, des jeunes, des nourrissons, des actifs, des inactifs, etc. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, tout ce qu'on veut. Donc c'était une pratique très intéressante et qui lui permettait d'avoir une activité professionnelle riche et aussi de garder des compétences puisqu'il avait besoin de voir une population variée, il avait besoin de s'entretenir des compétences variées. Puis cette région, j'ai dit sa population pour des raisons X ou Y. Et à la fin de son installation dans cette région-là, il me disait, mais je ne vois plus que des personnes âgées et chroniques. Ce qui fait que, alors, bien sûr, il faut leur apporter un soin, la question n'est pas là, mais ce qui fait que il avait perdu ou il perdait beaucoup de ses compétences médicales. Donc, il a décidé de visser sa plaque, comme on dit, pour aller s'installer dans les Landes, dans une région où il renaît en quelque sorte, puisqu'il voit de nouveau, c'est toujours une médecine rurale, hein, il voit de nouveau une population variée avec des jeunes, des vieux, des personnes âgées, des hommes, des femmes, des personnes actives. Donc, la richesse de la pratique médicale joue. Après, si l'on se pose la question différemment, il faut savoir aussi que les conditions de travail, alors ce qui peut aller des conditions de stationnement dans les grandes villes jusqu'aux conditions de travail plus matériel dans les campagnes, ne sont pas toujours très très bonnes en France. Après, il faut aussi se poser la question du rôle d'un médecin généraliste ou d'un médecin particulier. En France, le médecin généraliste est souvent seul dans son cabinet. Si ma mémoire est bonne, il n'y a qu'un tiers des cabinets médicaux qui ont un secrétaire sur place. Et il faut qu'il y ait en gros 3 médecins pour pouvoir avoir une secrétaire de manière significative, avec un temps de travail significatif. Donc, ce qui fait que le médecin, même s'il y a une secrétaire téléphonique, doit faire quand même une grande partie d'un travail administratif qui, dans d'autres pays européens, est dévolu à des secrétaires. Et ensuite, ce médecin est seul dans son cabinet, ce qui veut dire, même s'il y a des associés, hein, ce qui veut dire doit faire beaucoup d'activités, et pas forcément d'activités médicales. Enfin, le côté tracasserie administrative et paperasserie, depuis que je me suis installé en 1900, j'ai commencé la médecine générale en 1983. Je me suis installé après le service militaire en 1986, et à l'époque, le côté administratif était vraiment léger. Quand j'ai arrêté la médecine générale, le côté administratif était extrêmement lourd. Donc tout ça, ce temps administratif, ou ce temps, oui, de secrétariat, est un temps qui n'est pas consacré aux soins des patients. Et qui fait qu'on
Vous
peut
parlez d'un
demander.
travail administratif, ça consiste en quoi exactement? C'est
Nous avons une quantité phénoménale de justificatifs à fournir et nous avons aussi une quantité phénoménale de dossiers à remplir pour nos patients, ce qui n'existait pas il y a quelques temps. Et puis nous avons 4 fois par an, c'est un mois jusqu'en 2017 au moins, mais je pense que ça continue toujours, nous avons 4 fois par an le délégué de l'assurance maladie qui passe dans les cabinets médicaux avec ce qu'il appelle notre profil. Alors, notre profil pour être conforme à ce que souhaite la Sécu. Si notre profil n'est pas conforme à ce que souhaite la Sécu, on se fait taper sur les doigts. Et donc, nous avons, dans un premier temps, avec le délégué de l'assurance maladie, c'est extrêmement, on va dire, courtois. Et puis, le délégué pointe ce qui ne plaît pas à la Sécu dans notre pratique. Et ensuite, si le médecin ne se corrige pas, à ce moment-là, la voie des sanctions peut être prise. Ce qui fait que, de ce côté-là, il y a quand même une contrainte, un flicage d'activité médicale qui n'existait pas au début où je travaillais.
Et la question du numerus clausus, c'est un élément qui joue aussi en facteur du désert médicaux.
Oui, la question du numerus clausus joue. Alors, c'est intéressant parce que le numerus clausus a été créé pour diminuer les dépenses de santé. Et donc, quand il met quelque chose, une mesure qui prend a des conséquences dramatiques sur notre champ, sans corriger
Parce
forcément
qu'on
le
s'était
problème.
dit, moins il y aura de médecins, moins les gens iront, donc moins il y aura de
C'est
dépenses.
ça, absolument. Les politiciens ont voulu réduire l'offre pour réduire la demande. Alors, malheureusement, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, parce que l'offre de soins est beaucoup plus vaste que simplement le médecin généraliste ou le médecin particulier. Il est évident que quand on ne forme pas beaucoup de médecins, à la sortie, le nombre de médecins disponibles est peu important. Mais il y a ce qu'on appelle une certaine attrition, c'est-à-dire que parmi les médecins admis au concours, il y en a qui n'arriveront pas au bout de leurs études. Alors, ce n'est pas une majorité, parce que comme le concours est difficile, en général, les médecins ils viennent arriver au bout. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'une grande partie des médecins formés vont s'orienter vers des voies de pratique qui ne sont pas des voies de pratique de soins, et en particulier pas des voies de pratique de soins de terrain. Et ces personnes-là seront manqueront pour la permanence des soins et la pratique de la santé, la pratique médicale sur le territoire. Ils peuvent s'orienter pour être médecin d'assurance, médecin coordonnateur comme moi, et moi j'ai fait ça en fin de carrière, médecin de santé publique, de toutes ces catégories-là, ou médecin de laboratoire, toutes ces catégories-là qui ne sont pas des traitants, des médecins soignants. Et comme le numerus clausus a bloqué les places, on ne peut pas faire de rattrapage. C'est-à-dire s'il y a, je vais dire un chiffre au hasard, un tiers des médecins qui ne font pas de soins, on ne peut pas dire, mais j'en reprends un tiers de plus pour avoir mon quota de soins. Ça, on ne sait pas. On ne peut pas le faire. C'est bloqué au départ. Donc, quand l'enveloppe est fermée, eh bien, on se retrouve après avec de grosses difficultés sur le terrain. Ce qui fait qu'en résumé, peu de médecins formés, encore moins de médecins praticiens sur le terrain, des conditions de travail qui ne sont pas optimales, on se retrouve avec des endroits où il y a peu de médecins.
Et vu le temps qu'il faut pour former un médecin, c'est un problème qui va prendre du temps à être résolu, quand bien même on s'y attaquerait maintenant.
Alors, quand bien même on s'y attaquerait maintenant, si on veut résoudre le problème des déserts médicaux en créant de nouveaux médecins praticiens, il faudra du temps, puisqu'il faut, il faut 7, 8 ans, 9 ans pour former un médecin. Il faudra quelques années avant que ça se corrige. Cela dit, on peut aussi l'aborder différemment. C'est-à-dire, si on considère qu'il faut que les médecins se concentrent sur leur tâche médicale et soient déchargés de ce qui est à l'administratif, à ce moment-là, il faut que les médecins, comme dans beaucoup de pays européens, hein, dans quasiment tous les pays européens, les médecins ont dans leur centre d'activité, dans leur lieu d'activité, sur leur lieu d'activité, ils ont des professionnels qui les aident et qui font une partie du travail à leur place et le médecin se concentre uniquement sur ce qui est médical. Donc ça, ce serait beaucoup plus rapide à mettre en place si les, ça a commencé un petit peu en France, mais comme en France, on fait jamais les choses comme il faut, toujours les choses à moitié ou au tiers, les assistants médicaux ont été, bien entendu, réservés en France. Alors, pas tous les médecins, c'est les médecins qui travaillent en groupe, etc. En groupe, etc., etc. Ce qui fait qu'il n'y en a que 4 000, je crois, qui ont été budgétisés, alors qu'il y a plus de 60 000 médecins généralistes en France, pour ne parler que d'eux. Donc, évidemment, à part cette voie-là, on n'y arrivera pas. Mais en France. Mais si l'on s'attaque sérieusement à la répartition, à qui fait quoi, c'est-à-dire dans un cabinet médical, que fait le médecin, que fait un secrétaire, que fait une assistante médicale, que fait une infirmière, etc., etc., le problème peut être résolu beaucoup plus rapidement.
Si on opère quelques comparaisons européennes, est-ce qu'on a des pays en Europe où on a un système de santé qui est davantage libéral? Et si c'est le cas, est-ce que ça fonctionne mieux qu'en France ou pas?
Il y a des systèmes de santé qui sont davantage libéraux. En Europe, oui. Alors, par exemple, la Hollande, en 2006, si ma mémoire est bonne, largement privatisé son système de santé, et l'assurance en particulier, l'assurance santé en particulier. L'Allemagne a aussi privatisé une grande partie de son système de santé. La Suisse a un système de santé qui est très libre. Et c'est, alors le système de santé, on parle du système allemand, où l'Allemagne a mieux tenu le coup que nous face au coronavirus. La Suisse a mieux tenu le coup aussi que nous, mais moins bien que l'Allemagne. La Hollande a mieux tenu le coup que nous, mais moins bien que la Suisse. Donc, il existe des systèmes de santé qui sont davantage privatisés en Allemagne. Pardon, en Europe qu'en France, oui, ça existe. Après, il existe
On
aussi des
parle
systèmes. Oui.
beaucoup du système anglais. Ces trois pays-là, en revanche, on en parle un peu moins. Le système anglais, comment il fonctionne? Vous avez quelques éléments dessus, sur son fonctionnement?
Le système anglais, c'est le National Health Service, c'est celui qui découle de la philosophie de Beveridge, justement. C'est lui qui a initié le système anglais. Donc en Angleterre, les patients n'ont pas le choix de leur médecin traitant. Ils doivent choisir un médecin traitant dans leur secteur. Les soins sont gratuits avec ce médecin traitant. C'est ce médecin traitant-là qui va décider, pardon, si cette personne doit être hospitalisée ou pas. Donc, il faut voir qu'il rédige un courrier pour que le patient soit hospitalisé. sinon le patient sera de sa poche. Il n'y a pas de les personnes qui ont recours à des prestations hors services de santé publique ne sont pas remboursées. Ils ont un système qui est extrêmement centré sur le médecin généraliste. Le médecin généraliste est en pratique la porte d'entrée au système général de soins. On rentre par le médecin généraliste. Ça, c'est, alors en Allemagne, c'est un petit peu différent. En Allemagne,
Et en Angleterre, est-ce que Margaret Thatcher avait opéré des réformes de ce système
non,
Beveridge ou pas, non?
non. Non. Margaret Thatcher avait libéralisé beaucoup du système économique anglais pour le plus grand bénéfice de l'Angleterre. Malheureusement, elle ne s'était pas attaquée. Alors, d'autres comme ça, je n'ai plus la raison, j'ai plus raison qui me vient en mémoire, au système de santé anglais. Le système de santé anglais n'a pas été remis en cause par Margaret Thatcher. Ensuite, les autres gouvernants qui ont suivi non plus. La seule chose qui s'est passée, c'est que dans les années 80, les dépenses de santé étaient à 5%, ce qui fait que c'était un système où ils sont extrêmement rationnés et peu performants. Et ensuite, les dépenses de santé ont augmenté pour atteindre environ 10% du PIB maintenant. Mais le principe est toujours le même. Au début, c'est très, très rigide. Après, c'est un peu assoupli, mais le système est toujours le même. C'est financé par l'impôt. C'est un système où le résident, l'anglais, peut choisir son médecin traitant, mais parmi les médecins agréés et de son lieu de résidence. Alors, les soins sont gratuits, bien sûr, mais s'il s'adresse à un médecin non agréé, il n'y a aucun remboursement. Et si pour accéder à un spécialiste, ça ne se fait qu'à la demande du médecin généraliste.
On voit en France, notamment dans l'organisation, une différence aussi entre le secteur public et le secteur privé. Et de fait, ceux qui ont les moyens financiers, une fois qu'ils ont payé leurs impôts d'un système qu'ils n'utilisent pas, peuvent ensuite aller dans le système privé si ils ont les moyens nécessaires pour cela.
J'ai pas...
C'est un peu comme l'éducation, finalement.
En Angleterre ou en France?
Non, en France.
En France, actuellement en France, les Français peuvent pour l'instant encore choisir leur médecin traitant. Ils peuvent encore choisir entre l'hôpital public ou l'hôpital privé, but lucratif ou but non lucratif. Donc, ils ont encore un choix qui est plus grand. Une différence quand même à noter, c'est que depuis qu'on a mis en place en France le système du médecin traitant, les médecins français, en particulier les médecins généralistes, refusent de prendre en charge un certain nombre de personnes quand ils estiment qu'ils ont atteint, entre guillemets, un nombre suffisant de patients et que davantage de patients porteraient atteinte soit à la qualité des soins, soit à la qualité de vie du médecin. Ça, c'est un événement qui n'existait pas tout à fait au début quand j'ai commencé à travailler.
On constate en effet lorsqu'on a son médecin traitant qui part à la retraite, c'est compliqué d'en trouver un autre, il y a beaucoup de refus.
C'est compliqué de trouver un médecin traitant parce que les jeunes générations, de trouver un successeur pour un médecin traitant parce que les jeunes générations, et elles ont raison à mon avis, les jeunes générations veulent avoir des conditions de travail meilleures que ce que nous avions, nous, quand nous avons commencé, je dis nous, mais c'est ma génération, quand nous avons commencé à travailler. Ensuite, il y a aussi autre chose dont il faut tenir compte, c'est une féminisation de la profession médicale et que les femmes, elles ont raison, veulent garder du temps pour leur famille et leurs enfants. Et ce qui fait que la disponibilité du médecin est moins importante ou devient moins importante maintenant. Donc, à partir du moment où le médecin est moins disponible, il peut voir moins de personnes dans la journée, par exemple, qu'auparavant. Mais ces évolutions-là sont des évolutions qui, à mon avis, sont des évolutions plutôt positives. Si les médecins ont une meilleure qualité de vie et si la pratique médicale être modifiée pour ce sens, dans ce sens-là, ça va bien. La seule chose qu'il y a, c'est que les mesures d'accompagnement, celles dont je parlais tout à l'heure, par exemple avec les assistants médicaux ou la suppression de la paperasse inutile, n'ont pas suivi. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des médecins qui veulent une meilleure qualité de vie, de l'autre côté, une paperasse qui augmente. Donc, évidemment, la partie soins médicaux, comme je disais tout à l'heure, est prise en sandwich et c'est une partie qui se réduit.
Eh bien, merci beaucoup, Patrick de Cazeneuve, d'avoir évoqué pour Conflit ce fonctionnement de la sécurité sociale. Et on peut se rendre compte effectivement que c'est un enjeu qui est extrêmement important, autant pour l'aménagement intérieur du territoire que en termes de concurrence. On a un petit peu évoqué aussi les éléments de délocalisation, mais ça fait partie évidemment. La santé est un sujet majeur et un sujet essentiel de puissance. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, vous êtes actuellement coordinateur pour des EHPAD dans les Landes et que vous êtes également le président du cercle Frédéric Bastiat. Et nos auditeurs peuvent retrouver l'ensemble des références sur le site internet de Conflit. Merci pour votre fidélité à nos émissions. Vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec cet été un dossier consacré à l'Amérique latine.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.